l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour chers amis, chères auditrices, chers auditeurs. C'est Michel Collomb qui vous parle aujourd'hui. Marie-Claude étant partie en Allemagne pour rencontres familiales. Voilà, donc je suis très heureux d'accueillir Monique Serrault-Chaibi.
Bonjour.
Qui est notre invitée aujourd'hui et avec qui nous allons parler un peu de l'actualité au Moyen-Orient. Monique, est-ce que vous êtes quelqu'un qui représente des associations sur le plan de Montpellier, sur le plan de la région de Montpellier?
Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est moi qui avais demandé à Marie-Claude si je pouvais venir parce que j'ai une colère que je voulais, dont je voulais me débarrasser donc, oui. À la radio sur ce qui se passe justement en ce moment. Mais sinon, effectivement, je suis à la FPS, l'Association France-Palestine Solidarité. Je suis à SOS Méditerranée depuis la création de l'antenne ici, donc depuis 9 ans. Et je suis à Coup de Soleil depuis beaucoup plus longtemps, donc une association qui essaye de mettre un pont entre les deux rives de la Méditerranée à travers sa culture.
D'accord. Donc vous êtes tout à fait dans le but, avec les intérêts de cette émission, qui est l'émission de la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale. Alors, cette colère, comment vous l'orientez, comment vous la... vous l'exprimez à divers niveaux, diverses puissances dans l'expression.
Alors, pour en revenir aux associations, donc à une époque, j'ai au tout début de SOS Méditerranée, j'ai imaginé un recueil de textes sur l'exil avec une cinquantaine d'auteurs et un certain nombre d'illustrateurs. Pour qu'on ait un œil différent sur les gens qui arrivent d'ailleurs. Et donc ça s'appelle Au cœur de l'errance. Il y a des auteurs connus dedans, parce que si vous voulez qu'un recueil ait un certain succès commercial, entre guillemets, certes, il faut bien qu'il y ait des noms qui soient dedans. Donc il y a Laurent Godet, il y a Éric De Luca, il y a Emmanuel Schmitt, etc., un certain nombre de gens fiables. Il y a Marie-Gilles Tcherfi qui est de la région. Et puis, je n'ai pas eu l'idée au moment du 7 octobre, ça m'est venu avant, ça m'est venu en mai 2023, au moment où on commémorait la Nakba. Donc la Nakba, où 760 000 Palestiniens avaient été chassés de chez eux, j'ai voulu faire la même chose, un recueil avec des auteurs et des autrices et des personnes en capacité d'illustrer le recueil. Et comme j'ai une histoire personnelle que j'avais déjà expliquée, mon père a été assassiné à Jérusalem en 1948, alors que je venais de naître. Il était chef des observateurs de l'ONU. Il a été assassiné par le groupe Stern, qui était lié au Lehi, Ben Gourion, etc.
Service secret.
C'est ça. Donc, il a été criblé de balles le 17 septembre 1948. Et puis, d'un autre côté, ma mère, qui était résistante, parce qu'elle était souvent... mon père travaillait beaucoup sur l'espionnage et tout, et souvent il partait avec ma mère dans des pays étrangers, alors sous des faux noms et tout. Donc ma mère a été résistante, elle était d'ailleurs dans le réseau des fleurs, et elle a été arrêtée à Beaumont, à côté de Clermont. Elle a passé 8 mois dans le fort de Romainville avant d'être envoyée à Ravensbrück, où elle était avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. Donc toute mon enfance, maman m'a nourri des souvenirs de déportation. On m'a raconté l'horreur du nazisme. Et donc, j'ai été très marquée par, par cette abomination. Et donc, de l'autre côté, mon père a été assassiné. Donc, donc je me sens tout à fait légitime, on va dire. Je ne sais pas si le mot est exact, mais je me sens dans l'incapacité de haïr ou les uns ou les autres, parce que je sais que les Juifs ont énormément souffert et que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale est immonde. Moi, j'ai été nourrie avec l'idée du plus jamais ça. Malheureusement, je m'aperçois aujourd'hui que c'est un vœu pieux, mais que,
la réalité reprend le dessus.
Et donc, et puis, parce que je sais que le sang de mon père est à Jérusalem, quelque part. Donc, symboliquement, je me sentais.
Symbolique, oui.
Voilà,
très,
je me sentais donc légitime pour ce recueil. Donc, et pareil, j'ai des auteurs assez connus. Alors, après, il y a eu le 7 octobre, et certains des auteurs sur lesquels je tenais beaucoup se sont retrouvés dans une situation de sidération, à tel point qu'ils m'ont dit « je ne peux même pas écrire ».
Je ne peux plus en parler.
Et donc, bon, ils m'ont encouragé à le faire, mais eux, ils ne sont pas. Du coup, j'ai recherché d'autres auteurs, donc ça a mis un peu plus de temps que ça n'aurait dû, mais j'ai quand même 40 auteurs et 14 illustrateurs. Et ce recueil qui s'appelle « Paroles ».
Ces différents recueils, on peut y avoir accès, trouver en librairie.
C'est la maison d'édition Chèvrefeuille Étoilée, qui est sur Montpellier d'ailleurs, qui s'en est chargée, et je les remercie grandement. C'est une maison d'édition de femmes, et pareil, qui sont en rapport avec les deux rives de la Méditerranée, puisqu'il y a parmi les éditrices, il y a des Françaises mariées à des Algériens, une Algérienne mariée à un Français, enfin, etc. Donc, c'est des personnes qui ont un pied de chaque côté. Et c'est une maison d'édition de femmes. Sauf que quand il y a un livre collectif, il y a des paroles d'hommes dedans. Mais en règle générale, ce sont les femmes qui sont éditées par Chèvrefeuille Étoilée. Donc, vous pouvez trouver ça...
Voilà, Chèvrefeuille Étoilée.
Voilà. Voilà.
Très bien. Bien, et alors, à partir de tout ce bagage vécu, vous souhaitez aujourd'hui, enfin, vous êtes confronté à une situation qui est, à vos yeux, inacceptable.
La situation est inacceptable, mais ce que je trouve inacceptable, et c'est la raison de ma colère, c'est la facilité avec laquelle les gens acceptent tout ce qu'on leur dit. Ce sont les médias les plus connus qui crachent des tas de mensonges et qui font que le racisme en France augmente et que on finit par donner raison à une situation qui est une situation génocidaire. On ne peut pas nier qu'il y a plus de 55 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre. Alors, je sais, il y aurait quelqu'un en face de moi qui ne serait pas de la radio, on me dirait, oui, mais
les otages.
Il faut reconnaître le 7 octobre, c'était quand même un... Oui, quand il y a eu le 7 octobre, j'ai dit que c'était un massacre, et je continuerai à le dire, mais je peux aussi dire que si le Hamas existe, c'est parce qu'il a été financé par Israël, qui voulait faire perdre du poids à Arafat, et donc que le Hamas sert Israël, que effectivement je sais que parmi les morts du 7 octobre, il y a sûrement des gens, c'était à Sderot, il y a beaucoup de gens de gauche par là, des gens qui n'avaient rien contre les Gazaouis, qui n'auraient pas dû mourir, ça c'est certain. C'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est horrible aussi d'avoir pris des personnes en otage, ça j'en conviens. Mais ça ne justifie pas autant de morts à Gaza, et autant de martyrs, autant... La famine, ça fait des semaines et des semaines que les gens n'ont pas à manger, qu'ils vont manger des... Ils vont essayer de pêcher des tortues, enfin, ils vont... Enfin, ça rappelle des temps terribles.
Oui.
On voit quand même tous les jours des vidéos avec des enfants qui sont amaigris parce qu'ils n'ont rien à manger, qui meurent de faim, des enfants mutilés. Et pour ce qui est des mutilations, elles existaient déjà avant le 7 octobre, puisque Gaza a quand même été attaqué une quinzaine de fois auparavant, et il y a eu déjà des guerres. Et puis, il y a un jeu particulier, c'est de tirer dans les genoux des jeunes gens pour qu'ils soient mutilés, et on leur tire des balles explosives pour que le membre ne soit pas réparé. Donc, tout ça, ça existait déjà un peu avant, mais maintenant, Gaza, c'est quoi ? C'est un terrain de ruines. On n'y fera jamais une riviera, hein, ou alors il faut des siècles pour ça. Donc, et puis, vous avez quand même, je sais pas, des familles complètes qui ont été assassinées. Vous avez des bombes qui sont capables de traverser 3 étages de béton. Qu'on ne dise pas « Ah oui, mais c'est le Hamas ». Non, c'est pas le Hamas. Il y en a marre que ce soit toujours le Hamas. Et en France, je supporte. Alors, je suis pas du tout proche de LFI, mais je ne supporte pas qu'on dise que les gens de LFI sont des antisémites. Et c'est faux. C'est pas parce qu'on dit que le gouvernement d'Israël est meurtrier que l'on met tous les Juifs dans le même panier, tous les Israéliens. C'est faux. C'est que simplement, je ne dis même pas moi que je suis antisioniste, parce que quand on est parti en 2013. En mission en Palestine, on a eu un débat un soir avec un avocat qui se disait lui-même sioniste de gauche, et sa tâche principale, c'était de protéger les Palestiniens dont on avait volé les
terres.
Les terres. Donc, non, moi je dis que c'est un drame de colonisation, et c'est tout. Voilà, donc il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'on arrête de dire que...
Là, enfin, ça ne s'arrête pas actuellement, non. Et même ça s'étend.
Et puis il y a une guerre des mots, parce que vous allez employer le mot « otage », qui est tout à fait légitime pour les gens qui ont été enlevés le 7 octobre.
Oui.
Mais tous les Palestiniens qu'on a enlevés, qu'on met dans des prisons en Israël, sans motif et en détention administrative, c'est une forme d'otage. Terroristes, je suis désolée.
Très souvent, les otages ont été libérés en échange de milliers de gens qui étaient en prison.
Non, puis il y a des otages qui sont morts parce qu'il y a eu des bombes israéliennes qui sont tombées là où ils étaient. Netanyahou se fiche complètement des otages.
Et
d'ailleurs, une partie de la population israélienne le sait. Donc. C'est ça, c'est que les mots sont... Et puis vous remarquerez que quand il y a des Israéliens qui se font tuer, on a le nom, on a l'âge, on a... Les Gazaouis, non, ils n'ont pas de nom. Ce sont des chiffres, des nombres. Quand ce ne sont pas des rats, parce que quelquefois, on vous parle d'eux comme d'animaux. Vous avez quand même des gens, même en France, dans des... télévision en France, où on vous dit que c'est normal qu'on les assassine, puisque de toute façon, dès qu'ils sont dans le ventre de leur mère, ils sont déjà des terroristes. Comment vous pouvez dire ça ? Comment vous pouvez être une mère de famille et dire ça d'enfants d'une autre ethnie, que ce sont des enfants qui ne doivent pas naître ? Moi, je trouve que c'est ignominieux, et que l'on défende ça, et que les gens n'aillent pas chercher plus loin quand on leur dit ça, et qu'ils tombent dans le panneau de croire à ça, c'est ça qui me révolte. On est devenu paresseux au niveau... depuis le confinement, je trouve que les gens se sont repliés sur leurs écrans, et qu'il suffit que Facebook dise quelque chose, hop, on relaye, on ne va pas chercher. Moi, je dis à mes petits-enfants, quand tu vois une information, cherche, si tu trouves 3 fois la confirmation de ce que tu viens de lire, bon, c'est bon, tu peux t'appuyer dessus.
Oui.
Mais surtout, va voir ailleurs, essaye de te renseigner vraiment sur la réalité.
Oui. Et c'est vrai que la réalité, elle est effarante actuellement, par exemple, ces morts d'enfants qui ont été cherchés à manger et qui ont été bombardés par l'armée israélienne.
On les envoie dans un endroit où on leur dit qu'il y a la nourriture pour leur tirer dessus.
Ouais. Alors, on va peut-être demander une musique qui sera peut-être aussi un poème.
Ouais, c'est un poème qui a été mis en musique par HK, que tout le monde connaît, et donc c'est le poème de Refaat Al-Harir, qui malheureusement a été assassiné depuis qu'il a... C'est un poème prémonitoire.
On l'écoute.
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza,
que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza,
toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza,
qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza,
de tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza,
à ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza,
de cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza,
de ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant, inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra.
Qu'est-ce qu'on peut dire il vous appartiendra du sort et du devenir des Palestiniens à Gaza?
Alors, c'est difficile d'être optimiste, parce que même si ça s'arrête demain, s'il y a un cessez-le-feu, déjà au niveau des enfants, ils vont tous être traumatisés. Ils le sont déjà, ils ont...
Le trauma, ça, bien sûr.
C'est horrible. Ils ont des drones 24 heures sur 24 au-dessus de leur tête, qui tirent, qui font un bruit pas possible. Bon, ils ont...
Le souci de manger, tout simplement.
Voilà, et puis ils ont perdu, pour la plupart, ils ont perdu leurs parents.
La ruine de chacun, de chaque famille.
Vous avez cette femme pédiatre qui travaillait à l'hôpital quand on lui a amené ses 9 enfants carbonisée, elle ne pouvait même pas reconnaître ses enfants tellement ils étaient brûlés.
Oui.
Elle a un seul de ses enfants qui a survécu et qui a été amputé d'ailleurs. Comment elle et son fils vont survivre à ça? Moi, j'ai du mal à... C'était la veille de la fête des mères ici, en plus que c'est arrivé.
C'est horrible,
c'est quelque chose d'horrible. Et puis vous avez combien d'enfants qui ont perdu un, deux membres, parce qu'ils sont, beaucoup sont mutilés. Et puis psychologiquement, je ne sais pas comment on se remet de ça. Ceci étant... Je pense aussi aux enfants d'Israël, aux jeunes d'Israël, qui ont été formatés depuis leur plus jeune âge, depuis l'école, à haïr des Palestiniens qu'ils ne connaissent pas, puisqu'on ne leur a pas laissé la possibilité de les fréquenter. Mmh. Donc, ils ont une vision fantasmique de ces gens. Ils trouvent que ce sont On leur a dit que c'était eux qui avaient volé la terre. Ouais. On leur a dit que c'est eux qui veulent les exterminer. On leur a retourné complètement le cerveau. Mais comment, du jour au lendemain? Alors, il faudrait savoir comment la jeunesse hitlérienne ont pu se sortir des idées qu'on leur avait inculquées. Mais je pense qu'il y a un temps fou avant que quelque chose de sain puisse se rétablir, s'instaurer entre ces deux pays.
Ouais, quoi. C'est probable, oui. Mais il y a déjà des militaires également qui ont repris du service là et qui commencent à comprendre que c'est inacceptable la façon...
Vous avez une association en Israël qui s'appelle Breaking the Silence. Ouais. C'est une association de jeunes soldats, enfin d'anciens soldats, et qui ont été obligés d'actes qu'ils se reprochent, ou qui ont vu des actes qui les ont...
Ils commencent à demander leur démission, enfin,
c'est ça.
À partir à l'étranger.
Et vous avez un film que je recommande, un film d'un Israélien, qui s'appelle « Innocence », et c'est un film qui est bouleversant, parce qu'on suit des enfants, je suppose que les parents ont donné des vidéos de leurs enfants quand ils étaient petits, des enfants, il y a par exemple un gamin qui est en école primaire, on leur fait dessiner des chars et des armes, etc. Et lui, il dit, mais moi, j'aime les animaux, j'aimerais bien dessiner des animaux. On sent que ce gamin, dès le départ, il n'est déjà pas tombé dans le moule où on veut le mettre. Et donc, ce sont des enfants, comme ça, il y en a 6 ou 7, je crois, il y a une fille et des garçons, que l'on suit au cours de leur jeunesse, jusqu'au moment où ils sont enrôlés dans la guerre contre Gaza, et tous se sont suicidés, enfin les enfants dont on a parlé se sont suicidés parce qu'ils ont refusé d'être complices de leur propre nation. J'ai des frissons rien qu'à raconter ça, parce qu'à la fin du film on entend leur lettre où ils expliquent pourquoi ils se suicident. Donc le gouvernement d'Israël ne respecte même pas ses propres jeunes, parce que depuis leur enfance, on les met dans une situation où ils ont peur de l'autre, où ils sont persuadés qu'ils ont raison sur des actes de violence. On les oblige à être d'une violence pas possible. Je ne sais pas si vous avez vu des photos où on voit des soldats qui se déguisent avec les vêtements des femmes qu'ils viennent de tuer, ou qui jouent sur des petits vélos d'enfants, alors que la famille a été...
Je préfère ne les avoir pas vus.
Non, mais c'est dramatique. Ouais, et ces gens-là, ceux qui ont fait ça, comment ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont se rendre compte? Est-ce qu'ils vont... je ne sais pas. Ouais. Moi, je n'arrive pas à voir l'avenir, aussi bien pour les uns que pour les autres.
C'était la question que je vous posais. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer des solutions?
Non, je crois qu'on n'a jamais connu une chose pareille.
Une telle situation.
Parce qu'effectivement, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la Shoah, ça c'est une évidence. Mais déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les télévisions et tout. Enfin, on pouvait encore dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, tout le monde, si on est honnête, tout le monde doit savoir et doit voir où est la violence. C'est pas une guerre, parce qu'une guerre... Ce sont deux armées l'une contre l'autre. C'est vraiment une agression. Alors bien sûr, une agression qui vient du 7 octobre. Mais le 7 octobre, c'est quelque chose qui, un jour ou l'autre, devait arriver du fait de presque un siècle d'humiliation envers les Palestiniens. Il ne faut pas oublier la Nakba de justement 48 dont je parlais tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu... il y a eu d'autres... Ben, je ne sais pas si vous avez vu le film sur le docteur Abou El Aïch, qui a perdu 3 filles et une nièce dans un bombardement à Gaza. Gaza, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Et puis, en plus, on a enfermé des gens à Gaza. Ils ne sont pas tous Gazaouis. Hein. Il y en a qui sont de Cisjordanie, qui ne peuvent plus voir leur famille. On les a parqués là. C'est l'endroit le plus dense de toute la planète, parce que c'est une toute petite... ça fait 43 kilomètres et il y a 2 millions de personnes là. Il n'y a plus rien, parce que tout ce qui est culture, tout ce qui est hôpitaux, écoles, tout a été rasé. C'est pour ça que vous vous dites, mais comment il y a des gens qui ont acheté des parcelles de Gaza, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Moi, j'ai une image l'image d'un enfant riche qui a eu un très beau jouet à Noël. Et puis un petit garçon qui malheureusement n'a pas la chance d'avoir ce genre de jouet, qui veut jouer avec. Et le petit garçon riche, pour pas que le gamin s'en serve, il écrase son jouet. Et ben c'est ce qu'on fait avec Gaza. Mmh. Parce que comment voulez-vous que même des Israéliens puissent habiter Gaza demain ?
Sans doute. Mais comment peut-on imaginer maintenant la solution du double État ?
Ben, c'était la meilleure solution à l'époque où elle a été proposée.
Aujourd'hui, il y a une dizaine d'années à peu près.
Aujourd'hui, dans la mesure où on a fait un gruyère donc les Palestiniens, ce serait à peu près les trous de gruyère, c'est-à-dire qu'ils sont très éloignés les uns des autres. Mmh. Entre deux trous, il y a des checkpoints et des murs. Mmh. Je ne vois pas comment on peut rassembler tous les Cisjordaniens et les Gazaouis sur le même territoire face à un territoire israélien. Non, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir un seul pays. Mais ça, c'est pareil, ça va être très très compliqué. La haine est tellement forte et elle vient de tellement loin. Et puis moi, je suis pas une politicienne, donc que personnellement, je suis un peu désespérée. Alors que je suis une optimiste de nature, mais là, j'ai beaucoup de mal.
Oui, parce que on voit mal comment on ne voit pas des pays arabes qui proposent d'accueillir la population.
Mais non, bien sûr que non.
Palestine, évidemment. Et bon, cette situation actuellement est inacceptable, quoi.
Mais elle est doublement inacceptable parce que c'est pareil avec les Israéliens. Les Israéliens, ils seraient accueillis nulle part non plus dans un autre pays. Je veux dire, le problème qu'il y a avec ces deux nations, c'est qu'elles ont elles ont le même problème. C'est que il faudrait qu'elles puissent rester toutes les deux dans ce pays qui est le seul qui peut vraiment les accueillir. Mais en même temps, comment ? C'est très, très complexe.
Il peut y avoir des miracles, peut-être. Il peut y avoir une illumination.
Je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas l'impression historique. Que les politiques cherchent vraiment.
Non, pour l'instant, ils sont dépassés.
C'est ça.
Ils sont dépassés. Et alors, ça s'est compliqué tout récemment avec l'attaque qu'Israël a portée contre
l'Iran.
Contre l'Iran.
Alors, ça couve depuis longtemps le problème entre l'Iran et l'Irak. Entre l'Iran et Israël, je remonte un peu trop loin dans l'histoire, mais là c'est vraiment Israël qui a pris l'initiative d'attaquer l'Iran. Mmh. Et vous avez quand même des politiques, un certain Macron par exemple, qui dès le lendemain a dit qu'il fallait être du côté d'Israël parce qu'ils ont le droit de se défendre. Ça, c'est le leitmotiv, qu'ils ont le droit de se défendre. Mais comment vous vous défendez quand c'est vous qui avez attaqué ? Et puis en plus, effectivement, il y a la peur de l'arme nucléaire. Mais il semblerait, parmi des journalistes, que l'on accepte très bien qu'Israël ait l'arme nucléaire. D'ailleurs, elle l'a en grande partie grâce à la France. Hein. Et que, par contre, l'Iran ne devrait pas l'avoir. Ou personne ne l'a, ce qui serait d'ailleurs le mieux. Ou les deux l'ont. Je vois pas pourquoi. Il y a aussi, encore une fois, une espèce de deux poids, deux mesures.
Oui. Oui.
Et puis, ce qui fait peur, c'est que ça peut embraser...
Toute la région.
Oui, toute la région. Oui.
Parce qu'il y a d'autres éléments d'inquiétude. Mmh. Il y a la Syrie, actuellement. Deux États, deux gouvernements qui se
non,
sont
et puis,
constitués.
Et puis, ils ont agressé le Liban, déjà, aussi. Donc...
Ouais. Voilà, donc là, on partage plutôt des peurs, des craintes, des horreurs qui nous révoltent, et on ne sait pas trop ce qui va sortir de tout cela. Vous voyez, est-ce que vous pensez que, par exemple, ici, dans la région de Montpellier, il y a des prises de conscience qui...
Moi, je suis sûre que même sur toute la France, il y a beaucoup plus de prises de conscience qu'on veut nous le faire croire. Parce que, bon, si, effectivement, si on se réfère à BFM ou à CNews ou à Frontières ou ce genre de torchons et de médias que je ne supporte pas. Effectivement, on va penser qu'en France, tous les gens sont antisémites, qu'il y a beaucoup de racisme, que l'islam est un dangereux, qu'il y a un risque de... Comment ça s'appelle déjà, comment on dit, de grand remplacement.
De grand remplacement.
Voilà. Ouais. Donc, si on les écoute, effectivement, c'est effrayant. On est entouré d'ennemis. Quand il y a une femme voilée, oh là là, il faut faire attention. Mais je crois que c'est ce que les médias nous disent, mais que dans la population, il y a quand même beaucoup, dans la société civile, il y a beaucoup de gens qui ne sont quand même pas tombés là-dedans. Quand vous voyez toutes les manifestations qu'il y a eu récemment, justement en faveur des Gazaouis, un peu partout dans les villes françaises, vous vous dites non, il y a quand même des gens qui sont ouverts aux autres et qui veulent la paix et tout. Moi, j'ai participé, comme un certain nombre d'associations, aux 15 jours d'exposition de Banksy à la Parcelle. On a terminé hier. Et on a eu un public, 20 000 personnes qui sont passées quand même, un public attentif qui a écouté. Bon, Banksy, c'est quand même quelqu'un qui s'attache à mettre en lumière toutes les injustices du monde.
À mettre du sens, oui.
Que ce soit guerre, que ce soit problème climatique, pollution, etc. Il est partout. On ne sait pas qui il est et c'est ce qui en fait... quelqu'un d'important et qui ne peut pas avoir de procès et tout. Mais donc, les 20 000 personnes qui sont passées étaient très attentives. On a beaucoup discuté, on a fait de la médiation pour leur expliquer ce que représentait chaque tableau et tout. Les associations entre elles étaient très unies. On a eu une soirée de clôture hier où on a beaucoup discuté, on a évoqué plein de projets. Et je pense que si tout le monde s'y met un peu, il faut que tout le monde, hein, y compris les gens qui nous écoutent aujourd'hui, essaye de s'engager d'une manière ou d'une autre. Alors, pas forcément de s'engager dans une association, mais auprès des gens qui sont autour d'eux aussi.
Eh bien, merci d'avoir poussé ce coup de colère.
Hein. Voilà, ça fait du bien.
Voilà, ça fait du bien. Et puis, ça indique aussi peut-être un autre moyen de penser, hein, une autre façon de voir les choses. Et puis espérons, si l'on peut espérer, parce qu'actuellement c'est quand même pas très possible. On peut penser que des gens vont jaillir, vont se lever pour proposer des solutions.
Et c'est pour ça que j'ai voulu venir, parce que je me dis, il y a quand même... Il ne faut pas lâcher, de toute façon. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se dire que tout est fichu.
Ne lâchons pas.